Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, j'ai l'immense plaisir de recevoir Guillaume de Monjou pour une émission que nous allons consacrer à la figure du père Paolo Dall'Oglio et du monastère syrien de Marmoussa. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sébastien.
Alors vous avez écrit un livre magnifique, je dois dire, qui est resté dans les mémoires pour ceux qui à la fois connaissent l'endroit et vous connaissent aussi un petit peu, Marmoussa, un monastère, un homme, un désert. Guillaume de Monjou, chez Albin Michel, je pense qu'il est toujours disponible.
Oui, absolument.
Voilà. Alors si nous parlons de cet endroit, c'est que c'est un endroit fort, un monastère du désert, un endroit inhabituel. Un homme, le père Paolo, disparu depuis 3 ans. Un peu plus peut-être.
Non, exactement 3 ans. Le 29 juillet, ça fera 3 ans.
Voilà, alors c'est un moyen de parler de lui, de combler cette absence qui manque. Sa paroisse n'était pas commune, convenons-en. Pour ceux qui ne connaîtraient pas son histoire, décrivez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé là-bas.
Moi, j'avais 24 ans. On était en 2002. Et puis, il se trouve que je travaillais à Beyrouth à l'époque. J'avais découvert la langue arabe et l'islam, en fait, tout ensemble à Beyrouth. Et mes amis sont venus de Paris pour visiter un peu la région. Et à l'époque, la Syrie était un pays extrêmement accueillant, avec une sorte d'harmonie un peu unique entre les chrétiens, les musulmans, les kurdes, les druzes, les chiites, les alaouites. Enfin, il y avait un peu une espèce de Régis Debray, d'ailleurs, qui est passé un peu plus tard, a dit que c'était l'endroit où les chrétiens étaient le plus heureux dans tout le Proche-Orient, la Syrie de l'an 2000. C'était une terre d'accueil, et ils étaient à peu près 10% de la population, les églises, les quartiers, ils étaient bien mélangés, ils étaient dans tous les villages, étaient islamo-chrétiens. Et donc, quand j'arrive en Syrie, moi, à 24 ans, je découvre un peu tout ça dans un pays quand même sous la dictature militaire de Bachar el-Assad, mais qui était déjà donc un peu un pays énigmatique. Il fallait aller chercher en profondeur la confiance des gens pour qu'ils commencent à vous parler de leur ambition, de leur quête profonde, de leur désir de démocratie. Et il se trouve que dans ce parcours un peu touristique, je l'avoue, qui était plutôt un parcours d'une personne qui voulait découvrir les belles pierres.
Une forme d'initiation, un voyage initiatique, voilà. Un voyage personnel.
Oui, culturel, un peu culturel comme on le fait quand on a 24 ans, on veut se dire « j'ai fait la Syrie », comme d'autres font l'Inde, vous voyez cette espèce d'expression. Et donc j'arrive à Marmoussa par hasard un soir, et Marmoussa c'est donc un monastère dont j'avais lu quelques lignes dans
où
mon guide.
Où sommes-nous ?
On est au nord de Damas, à peu près à 2 heures de route de Damas, et pour y aller, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre moyen que la route. La route, et souvent, c'est des espèces de tuk-tuk qui sont des bus collectifs dans lesquels vous êtes complètement serré contre une famille de 5 enfants sur les genoux qui vous montent dessus, qui rigolent avec vous. C'est des femmes voilées, pas voilées, etc. Et donc, on est sur une route un peu chaotique, et puis à la fin, tout le monde sort du bus et vous continuez dans une espèce de désert étrange, très silencieux. Vous êtes la dernière. Et le chauffeur pousse à peu près 10 km de la route principale, qui est donc l'axe entre Damas et Homs, vers Alep, donc vers le nord. Et là, le chauffeur vous emmène et puis il vous abandonne au pied d'une montagne en vous disant c'est là. Ça veut dire c'est vraiment ici, quoi. Et donc vous dites merci, au revoir, et puis il claque la porte et il n'y a plus aucun bruit. Vous rentrez dans un désert silencieux. Ni moteur, ni voix, ni souffle de vent, vous êtes au fond d'un ravin, en fait, qui a été dessiné par un vieux fleuve, une vieille eau qui a coulé dans cette montagne il y a des milliards d'années. On n'a aucune trace concrète d'où venait cette eau, mais en tout cas, elle a laissé un sillon qui fait que c'est une cuve, en fait. Et vous êtes en bas, vous montez des marches interminables, et lorsque vous arrivez tout en haut, au pied d'une sorte de grosse bâtisse, un peu une citadelle un peu médiévale, très lourde, comme le Crac des Chevaliers, comme ces vieux châteaux, il y a une toute petite porte, et vous êtes obligé de vous plier en deux pour passer par cette porte qui fait un coude, donc vous vous pliez en deux et vous tournez, et là, vous arrivez sur une terrasse ou habiter avec des gens qui se parlent, qui boivent du thé, des tapis par terre, des tapis, une sorte de grande tente face au désert et sous le ciel étoilé. Et là, y a une espèce de magie qui se produit et vous entendez des chants. Alors, moi, j'ai enlevé mes chaussures parce que j'ai vu qu'il y avait des chaussures au sol qui étaient posées comme devant une mosquée. Et je suis rentrée dans cette espèce d'église qui était retenue par des gros tapis verticaux. Donc c'était comme des rideaux. J'ai poussé les rideaux et là je suis arrivée dans une pièce éclairée à la bougie où il y avait des fresques extraordinaires sur les murs. Des fresques qui vous disaient « Que fais-tu là ? Comment es-tu venue ici ? Est-ce que tu es disponible pour ce lieu intérieurement ?» Et donc voilà, donc je vous écris ça un peu avec mes mots, mais c'est vraiment l'impression, la première impression de Marmoussa, c'est un lieu extraordinairement singulier qui vous oblige un peu à vous plier en deux quoi, dans votre vie, dans vos attentes et tout ça, et c'est pas du tout l'endroit qu'on attend.
Alors Marmoussa est un site historique, est un monastère important du 6e siècle, voilà. Mar voulant dire saint en syriaque, Moussa c'est Moïse, je
Moïse.
Crois. Saint Moïse, voilà. Moïse l'Abyssin, je crois.
Alors, Marmoussa el Abashi, ça veut dire exactement Saint Moïse l'Abyssin, ça veut dire l'Éthiopien. Donc c'était un ermite, un homme qui avait parcouru tout le Proche-Orient et qui un jour a décidé de s'installer là. Dans les grottes autour de cette montagne que je décrivais, il y a quand même des grottes plus profondes que d'autres, dans lesquelles des ermites, pendant toute cette période du 6e au 12e, 13e siècle, où il y a une grande tradition du monachisme oriental, eh bien, ils vivent là, dans les grottes, et puis ils se réunissent en communauté, une fois de temps en temps, dans cette citadelle du 6e siècle, à flanc de montagne.
Alors, si nous sommes dans la tradition des premiers chrétiens, ces ermites qui cherchent une vie à l'écart, nous arrivons en 1991, et l'on découvre le père Paolo, dont nous allons parler maintenant, 1991, donc, qui fait revivre cet endroit qui avait été abandonné depuis des siècles. Alors, il recrée une communauté. Mais une communauté qui se construit sur quelle base ?
Eh bien, cette communauté se construit sur la base d'une recherche d'harmonie entre chrétiens et musulmans. En fait, Paolo, c'est un Italien, un jésuite, qui décide un jour d'apprendre l'arabe. Il se sent appelé à l'islam, comme il dit, pendant ses études à Rome. Et donc il part pour le Liban apprendre l'arabe, on est en 78, en plein milieu de la guerre. Et dans ce cadre-là, il découvre la beauté de la langue arabe et il découvre aussi la prière musulmane en langue arabe, cette langue qui permet de prier. Et donc il se dit, je suis très ému par cette langue. Et donc d'abord c'est la rencontre entre cet homme-là et la langue arabe. Ensuite c'est la rencontre d'un Italien qui aime le patrimoine, comme tous les Italiens, bien élevé, c'est-à-dire toute l'Italie aime les pierres, comprend d'où elles viennent, essaye de les préserver, fait de son mieux pour maintenir les traditions.
Les fresques magnifiques dont voilà. que vous évoquiez tout à l'heure.
Et donc ce Romain de naissance, qui est né à Rome, qui a une famille de 8 enfants et qui est devenu jésuite et qui a à peine 28 ans, trouve ce lieu abandonné, Marmoussa, abandonné comme vous le disiez depuis 2 siècles, complètement abandonné, et se dit mais il reste quelques figures sur ces murs, des fresques. Il reste, alors c'était un endroit dévasté avec un ciel ouvert, il n'y avait plus de toit, et la pluie chaque année au moment de l'hiver évidemment fatiguait ces fresques, et donc pour lui ça a été impossible de passer par ce lieu par hasard et de ne pas s'y arrêter et de ne pas tenter de créer des camps scouts chaque
par
année.
Hasard.
Oui, par hasard.
Hasard.
Oui, absolument. C'est la providence divine qu'on appelle parfois le hasard. Ça dépend de la perspective dans laquelle on se place. Mais évidemment, pour lui, ça n'est évidemment pas un hasard, puisque le soir où il arrive là pour la première fois à 28 ans, il se dit « c'est l'endroit de ma vie ». Et donc il va monter des camps scouts entre 84 et 89, il monte des camps scouts chaque été où qui viennent reconstruire un toit en paille, puis en bois, puis en ciment, et puis enfin le truc devient
des camps scouts, c'est-à-dire des jeunes qui viennent
Syrie. Qui viennent passer 2 mois, alors syriens et italiens. Et donc il monte, et c'est un homme d'une énergie assez folle, et il se dit d'abord ça passera par un lieu, parce que Dieu nous met quelque part en fait. Si j'ai une mission sur cette terre de chercher l'harmonie entre l'islam et le christianisme, ça va passer par des lieux très concrets. On n'a pas un dieu bouddhiste abstrait, on nous a mis dans un endroit, dans un temps précis, et c'est pas un hasard si j'ai découvert cet endroit. Et donc il se dit je vais reconstruire ce lieu. Je vais faire venir la population locale, donc la ville de Nebek, qui est juste à côté, à, je vous dis 10 kilomètres à peu près, où il y a des chrétiens et des musulmans. Ils vont tous travailler là. On va reconstruire ce lieu et c'est l'endroit dans lequel je suis appelée à essayer de chercher une harmonie entre musulmans et chrétiens. Et il va, d'une certaine façon, y parvenir.
Alors en vous écoutant, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des idées, on pense à Louis Massignon, bien entendu, au père de Foucault. Est-ce que pour vous, c'est une forme de continuité de cette tradition du désert, mais cette tradition de la rencontre aussi ?
Oui, absolument. Je dois dire que Paolo dès ses études sur l'islam, dès ses plus jeunes années à Beyrouth, découvre d'abord, il commence à apprendre le français, parce que justement, Louis Massignon et Charles de Foucault sont des Français, et du coup, il découvre la façon dont ils ont finalement cherché, avec leurs outils, avec leurs moyens, à rentrer en contact avec l'islam, pas de façon, ni d'une façon idéologique, ni avec seulement une posture de dialogue. Il s'est dit, comment Louis Massignon et comment Charles de Foucault ont montré une sorte de voie de dialogue. Eh bien, il a compris que Charles de Foucault n'avait qu'une obsession quand il était à la Sécrem, c'était pas de convertir les musulmans au christianisme. Il avait absolument, d'ailleurs, il n'a fait aucune conversion, Charles de Foucault. Ce qu'il voulait, c'était devenir l'ami sûr des musulmans, être celui que les musulmans aiment comme un ami fidèle et vers lequel ils vont lorsqu'ils ont des questions. Et Charles de Foucault, il n'était pas du tout ermite au Sahara, il était complètement intégré à la communauté locale des Touaregs, eh bien, lui, il avait cette espèce de statut d'ami sûr. Il a gardé ses amis musulmans et il était pour eux un ami sûr. Et Paolo, à sa façon, a toujours été ça. Et d'ailleurs, il l'est toujours aujourd'hui. On ne sait pas s'il est vivant ou mort à l'heure où on se parle. Ce qu'on sait, c'est qu'il a donné sa vie tout entière depuis 30 ans pour cette question de l'harmonie entre les musulmans et les chrétiens, pour établir un dialogue de confiance, de profondeur et d'harmonie. Et on ne sait pas s'il est mort aujourd'hui, mais en tout cas, on sait qu'il a réussi, en tout cas, à devenir l'ami sûr de beaucoup de musulmans qui, grâce à lui, ont découvert ce que c'était que le christianisme et ce qu'était la possibilité de rencontre entre le christianisme et l'islam.
Il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs que le père Paolo a poussé cette idée de rencontre jusqu'au bout, parce qu'il est allé lui-même volontairement, il y a 3 ans, à Raqqa, dans cette idée de dialogue, pensant qu'on pouvait dialoguer avec ces gens-là. Qu'en pensez-vous ?
Oui. En fait, il s'est dit, comment est-ce possible que l'Occident ait brandi comme ça une sorte de Satan immense dans Daesh ? C'est-à-dire que l'islamisme radical est devenu le Satan de tout l'Occident. Depuis 2003, on se dit que vraiment, il y a une guerre en cours et elle est objectivement, elle est très explicite. On se dit qu'on est en guerre. Et lui se dit, mais qui sont ces musulmans qui cherchent à réinstaurer le califat? Qui sont ces émirs? Sur quelle base du texte ils se placent? Il a voulu, plutôt que de se dire, je suis du bon côté de la justice, de la démocratie, de la liberté, et eux sont du mauvais côté, de l'obscurantisme, du radicalisme religieux, etc. Il s'est dit, mais voyons si on peut essayer de dialoguer, de se comprendre, parce que le dialogue, évidemment, décrispe les situations. Et il a fait un peu l'impossible, il est allé se jeter dans la gueule du loup, il est allé demander 3 fois de suite, chaque soir de ce mois de juillet 2013, il est allé frapper à la porte de Daesh, à Raqqa, l'État islamique à l'époque. Il a frappé à la porte pour demander à rencontrer al-Baghdadi, qui était le grand Satan de l'Occident à ce moment-là. Et 2 fois, il a été les personnes qui étaient à l'entrée donc de cette grande prison islamique lui ont dit repart, il n'est pas là, etc. Et puis la 3e fois, on l'a plus revu. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'à ce moment-là, il a été assassiné? Est-ce qu'à ce moment-là, Paolo...
Mais comment a-t-il pu croire, pardon Guillaume de Monjoux, il faut quand même l'expliquer, a-t-il pu croire qu'il pouvait dialoguer avec ces gens-là?
Mais il s'est dit, ce sont des êtres humains, ils sont mis sur ma route, on est au 21e siècle, Dieu, en quel je crois, et Jésus-Christ m'a mis dans cet endroit précis du monde, en Syrie, parlant l'arabe parfaitement, comprenant l'islam parfaitement, puisque il a lu le Coran, Paolo, il croit, il se dit lui-même amoureux de l'islam, croyant en Jésus.
Le titre de son dernier livre
qui est paru aux éditions Le Passeur. Et donc Paolo, il a évidemment tout sauf l'idée de fermer le dialogue. Pour lui, c'est un être de dialogue jusqu'au fond de ce qu'il est. Au plus profond de lui, il y a l'idée du dialogue et que si on est ensemble à un instant T dans le même monde, c'est bien qu'on doit se rencontrer et qu'on doit essayer de se comprendre. Et comme il connaît bien les tenants du radicalisme, parce qu'il les a vus aussi, les radicaux chrétiens, les chrétiens d'Orient radicaux, il les a vus, il a vu leur fonctionnement, leur idée de communautarisme, de défendre quelque chose, même avec les armes. Il a vu cette guerre du Liban où les milices étaient à l'œuvre, etc. Donc il sait très bien quels sont les contours du radicalisme. Et donc il s'est dit, pourquoi pas aller à la rencontre de ces personnes qui sont dans un huis clos, dont on ne connaît absolument pas le fonctionnement, l'ambition, le projet, et essayer de rentrer en dialogue avec eux. Bon. Je ne sais pas s'il souhaitait le martyr. Je pense que dans le fond de lui, il y a quand même une idée, une question. Au bout de 2 ans, la guerre avait éclaté 2 ans plus tôt. Il était dans une énorme frustration de ne pas pouvoir agir sur cette situation et de voir que l'Occident continuait à ne pas entrer dans ce conflit, à laisser Bachar el-Assad pillonner des populations civiles. Tout ça lui était insupportable. Donc il a, à mon avis, joué un peu son va-tout en se disant « je vais tenter le tout pour le tout, je vais jouer la carte ».
Il est allé jusqu'au bout de sa propre logique, celle d'homme et de prêtre.
Absolument, d'homme surtout. Je crois qu'avant d'être prêtre, il est surtout homme. C'était un homme qui ne supportait pas l'injustice. J'en parle au passé, mais peut-être qu'il est encore, peut-être qu'un jour il entendra cette émission.
On peut le
souhaiter.
Absolument.
mais voilà, homme et prêtre. Prêtre parce que complètement. Et d'ailleurs, il disait, on est tous prêtres. Il ne faut pas que les prêtres soient des hommes dans leur chasuble, dansant leur pouvoir sur terre. Le prêtre, c'est quelqu'un qui est vraiment envoyé à quelqu'un d'autre. Donc on est tous témoins de quelque chose. On doit vraiment porter en nous l'idée qu'on est tous des témoins et il faut absolument réagir lorsqu'on voit une injustice comme ça, aussi dramatique que cette guerre en Syrie. Et du coup, Paolo, en effet, il y a une grande question sur son itinéraire, mais tout ce qu'on se dit, c'est que où qu'il soit, c'est un homme dont la route a été entière. Comment dire, c'est pas un homme qui a calculé du tout. C'est un homme qui était très intelligent, très stratège et qui n'a jamais mis cette intelligence au service de son propre pouvoir. Il l'a toujours mis au service justement d'un développement du peuple syrien, d'une envie d'ouvrir les cœurs du peuple syrien pour que celui-ci ait envie et un appétit de démocratie, un appétit de liberté individuelle et une conscience personnelle qui permettent d'éviter de devenir sauvage.
Parlons un petit peu de la communauté. Que reste-t-il de Marmoussa ? Est-ce qu'il existe un Marmoussa virtuel qui se reconstitue peut-être même dans les murs même du monastère
Il est complètement concret, le Marmoussa dont je vais parler. Cette citadelle du VIe siècle est toujours debout. Elle a été visitée par des espèces de cambrioleurs, mais jamais elle a été détruite, heureusement. Elle est dans une zone un peu protégée.
Elle est dans la zone gouvernementale,
ouais,
toujours.
Oui, parce qu'à côté de là, il y a une ville de garnison. Donc du coup, il y a une sorte de protection du site. Et il y a des moines et des moniales qui continuent à prier, à garder le rythme de la prière. Ils sont devenus beaucoup plus contemplatif, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de touristes, alors que c'était une vraie citadelle touristique.
Il faut quand même préciser que c'était devenu un endroit où les gens qui passaient à Damas se rendaient naturellement, justement pour voir concrètement cet esprit de rencontre.
Oui, cet esprit de rencontre, le vivre et sentir le désert aussi. Parce que dans les grandes villes musulmanes, dans les grandes villes, il y a quand même une saturation du bruit, des klaxons, de la cohue. Et il manque du coup à ces citadins des lieux comme ça où ils peuvent se retrouver dans la nature, dans le silence, dans la paix et du coup peut-être le face-à-face avec Dieu. Donc ce désert était aussi l'occasion de venir pour plein de musulmans faire un pique-nique dans le désert, passer une journée au calme à 2 heures de la ville et donc je voyais moi tout le temps défiler des familles, des groupes, des gens qui enlevaient leurs chaussures, rentraient dans l'église, regardaient les fresques, même lisaient le Coran dans l'église devant le Saint-Sacrement. C'était extraordinairement, c'était un lieu pas du tout syncrétique, mais très, très spirituel. Et donc, pour vous répondre, il y a des moines qui restent encore à Marmoussa, qui sont des moines syriens. Tous les moines qui étaient des personnes qui venaient soit d'Europe, qui s'étaient convertis à Marmoussa, il y avait un Français, il y a un Zurichois, il y a une Italienne, voilà, tout cela, ou une Libanaise, n'ont pas pu rester en Syrie au moment de la guerre, donc ils sont tous repartis dans différents endroits. Il y en a qui continuent leurs études à Rome, à la Grégorienne.
Je crois qu'un jeune père est à Jérusalem, non ?
Un jeune père, non, je crois pas. Je crois que il y a Jacques Mourad, qui est le disciple d'origine, qui était aussi en Syrie, est parti vers le Kurdistan irakien. Il y a aussi 3 moines qui sont en Italie à terminer leurs études à la Grégorienne de Rome. Et donc, grâce à ces endroits qui ont été offerts à Paolo pendant les 30 dernières années, qui ont été des lieux à rebâtir aussi et des lieux à restaurer, eh bien, Marmoussa continue à vivre. Il y a une vraie communauté qui s'appelle la communauté Al-Khalil, qui veut dire en arabe l'ami de Dieu, c'est le nom d'Abraham, et qui est donc une communauté dédiée au dialogue islamo-chrétien et qui continue à être très dynamique, avec des moines très bien formés qui parlent tous 3 ou 4 langues, qui prient en arabe, qui connaissent parfaitement le Coran et qui sont des amis sûrs pour leurs frères musulmans.
Alors vous êtes auteur, vous êtes journaliste aussi, Guillaume de Monjou. Est-ce que vous avez rencontré déjà des personnes aussi impressionnantes que le père Paolo ?
Des personnes aussi impressionnantes que Paolo ? Écoutez, c'est une drôle de colle que vous me posez parce que je crois que Paolo est pour moi... Je pense que Paolo est quelqu'un d'unique et comme nous tous, mais il a quelque chose d'en plus de nous qui est d'avoir l'espèce d'échelle de l'univers et l'échelle de l'éternité devant lui. C'est-à-dire qu'il a tellement en lui une foi profonde sur le fait que la vie qui nous attend au-delà est aussi importante, sinon plus, que celle d'ici-bas, ça lui donne une sorte de liberté à l'égard de ce monde compact dans lequel nous on est, où on essaye de rester mince, de rester beau, de voyager, de visiter, de découvrir, de devenir intelligent. Lui, il avait cette espèce de... Il avait abdiqué sur les champs, disons, mondains, et il était devenu quelqu'un un peu... déjà d'éternel.
Il avait essayé de s'implanter au Kurdistan à un moment donné, le Kurdistan irakien. Il voulait créer une sorte de petit Marmoussa.
Quel
était
absolument.
Son état d'esprit, d'étendre un petit peu cette, cette confrérie à d'autres univers.
Eh bien, à Souleymaniye, il y avait l'idée qu'il pouvait entrer en dialogue avec les Kurdes, qui sont un peuple très particulier, dont il s'est beaucoup rapproché ces dernières années, et un peuple de moines soldats, de combattants pour la cause kurde, et ça le fascinait, cette langue kurde aussi très singulière, et il était au Kurdistan irakien, dans un endroit proche de l'Irak, proche de la Syrie, et c'est vrai que ce monastère de Souleymaniye, il l'a rebâti comme Marmoussa l'a fait, donc il l'a rebâti, il l'a transformé en lieu de refuge aussi, puisque tous les chrétiens et les musulmans qui avaient été chassés par Daesh durant l'été 2014 et 2015, il les a recueillis. Il y a eu à un moment donné 80 familles qui dépendaient du monastère de Souleymaniye, qui dépend de Marmoussa lui-même.
Donc il y a un côté humanitaire aussi.
Très humanitaire, d'accueil toujours, d'hospitalité sacrée, comme Massignon l'avait décrite, l'hospitalité est sacrée en islam et l'idée toujours n'est pas d'essayer de convertir ou de dire qu'on a bien fait les choses, qu'on a fait des bonnes actions. L'idée c'est toujours de se mettre dans l'axe du destin de ceux qu'on aime. C'est-à-dire, il ne veut pas annexer les gens, il ne veut pas annexer les musulmans qui viennent pour les transformer en chrétiens, il veut se mettre dans l'axe de leur destin, les regarder dans le destin de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu conduit nos vies et comment Dieu nous met en dialogue ensemble.
Sébastien de Courtois dans Chrétien d'Orient. Je remercie Guillaume de Monjou pour être venu jusqu'à nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Marmoussa, un monastère, un homme, un désert, paru chez Albin Michel il y a déjà quelques années, mais toujours disponible, je pense. Et je voudrais mentionner le travail de quelqu'un qui a très bien connu aussi Marmoussa, Cécile Massy. Vous la connaissez, je crois.
Oui, je la connais très bien.
Voilà, qui fait un travail photographique, je dois dire, exceptionnel. Alors, ce sont des expositions itinérantes. Alors, on va mettre un petit peu le lien vers son site internet pour avoir un aspect visuel de Marmoussa. Donc, de très, très belles photos. Je remercie pour la réalisation de cette émission Didier Pinault, Dany Journeau et Frédéric Bredin, pardon. Et nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer et le service protestant. Merci.